Silicon Valley, transhumanisme et Aldous Huxley. Là, on a un gros menu. Je vous dis, on part pour un cocktail qui risque de vous laisser pantois, même pontoise, si vous habitez en région parisienne. Un autre sujet que je voulais traiter avec vous, sur lequel je voulais revenir, parce qu'on en avait parlé il y a quelques mois maintenant, les Enhanced Games. Enhanced Games. J'ai travaillé ma prononciation. Les Jeux Olympiques du dopage. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Rappelez-vous, je vous avais parlé de ça, les copains.
Sur ce plan de départ.
Et je vais vous montrer une petite introduction d'une vidéo de Brut qui a parlé de ça pour vous donner le contexte. Je reviendrai là-dessus. Ces jeux ont eu lieu, ça a été un énorme flop, je vais tout vous expliquer. Et surtout, j'ai envie de tirer le fil des réflexions avec vous parce que je pense sincèrement, hein, et je vous le dis, là c'est ce que je pense, en toute objectivité, je suis assez convaincu que le futur du monde sportif est déjà devant nos yeux et qu'on va vers des choses pas jolies jolies. Je vais tout vous expliquer. D'abord, on regarde Brut qui nous explique rapidos ce que c'est cette histoire de Enhanced Games.
Bienvenue dans l'univers des Enhanced Games ou jeux améliorés en français.
The world's best athletes, fully unleashed and powered by science.
Le premier projet sportif où le dopage est non seulement autorisé, mais aussi organisé.
After 3 weeks, I was doing like 100 kg, then I went to 120 kg.
Et même planifié comme un business prometteur.
They are not lab rats or guinea pigs. They are not.
Las Vegas, symbole mondial du divertissement et de la démesure. C'est ici, au cœur du strip, que doivent se tenir les premiers Enhanced Games du 21 au 24 mai 2026. Cette compétition est prévue comme un immense show à l'américaine.
The Enhanced Games, a new era where sport meets spectacle.
Voilà, donc vous avez compris l'idée, hein, n'hésitez pas à aller voir plus en détail la vidéo de Brut qui parle de ça. Donc cette histoire d'Enhanced Games, c'est tout à fait récent, la première édition a eu lieu en 2026. Et l'objectif, il est très simple, de faire concourir des athlètes dopés pour péter les records et retrouver des compétitions explosives. Alors, déjà, on continue un petit peu sur le contexte. La première édition a eu lieu il y a quelques jours aux États-Unis, donc c'était le 24 mai à Las Vegas, et ça a été un gigantesque flop. C'est-à-dire, ils avaient annoncé sur certaines épreuves sportives dans ces Enhanced Games, ils avaient annoncé de la natation, de l'haltérophilie, choses comme ça. Les records devaient tomber, il y en a un seul qui est tombé. Je vais vous lire notamment... Non, c'est pas dans ce que je voulais vous montrer. Mais ça a été véritablement un flop. Un seul record qui est tombé. C'était bien en dessous des promesses qui ont été faites par les organisateurs. Et donc, je voulais revenir, pour commencer, sur la tribune d'un philosophe qui s'appelle Jean-Noël Missa, qui était dans le Figaro. Déjà, pour vous donner un peu plus d'éléments de contexte sur cette compétition et qui sont les créateurs. Parce que déjà, ça, c'est intéressant. Qui sont les créateurs des Enhanced Games? Donc, c'est cette tribune-là. Ce que nous dit le titre de la tribune, c'est « Les Enhanced Games sont la vitrine sportive du transhumanisme ». Et que nous dit notre ami Jean-Noël Missa sur cette compétition, le contexte de la compétition, il explique... L'initiative vient d'un homme d'affaires australien, Aaron de Souza, soutenu notamment par Donald Trump Jr. et Peter Thiel. L'idée est de proposer une alternative aux Jeux Olympiques dans laquelle les athlètes ont le droit d'optimiser leur performance par tous les moyens disponibles, EPO, stéroïdes, hormones de croissance, le tout sous contrôle médical et suivi cardiologique. À ce stade, le format reste modeste, avec 3 disciplines seulement, natation, sprint et haltérophilie. Quelques dizaines d'athlètes y ont participé, de grandes gloires à la retraite, comme le nageur James Magnussen, vice-champion olympique du 100 mètres en 2012, ou bien des sportifs suspendus pour dopage, comme le sprinteur Mouhamadou Fall, champion de France du 100 mètres et du 200 mètres. La motivation est d'abord financière, ils sont grassement payés, et les primes en cas de record du monde sont montées jusqu'à 1 million de dollars. Christian a d'ailleurs battu virtuellement le record du monde du 50 mètres nage libre. Donc, vous avez compris l'idée, il y a du pognon, on veut remettre des enjeux dans le sport, il y a des grands investisseurs de la Silicon Valley, il y a le fiston de Donald Trump parmi les investisseurs, donc on a tout un cocktail de ce qu'on aime. ou pas, c'est selon. Il y a également Peter Thiel, parmi les investisseurs majoritaires, j'y reviendrai, le patron de Palantir, cofondateur de PayPal, l'une des grosses têtes de la Silicon Valley, et surtout un transhumaniste notoire, aujourd'hui proche du pouvoir américain. Donc, on a un cocktail plutôt sympa, plutôt sympatoche, en se disant, tiens, ça risque d'être de la merde. Et je le pense, mais je pense surtout qu'on a là le début d'une révolution pour le monde sportif. Je vous explique mon petit raisonnement et on en discute évidemment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude. Donc, vous l'avez compris, clairement, ces jeux-là, l'objectif, c'est de faire sauter les verrous du dopage. La lutte anti-dopage, quelle que soit la discipline, est un enjeu majeur dans des sports où il y a des scandales énormes. On pense au cyclisme, évidemment. Et aujourd'hui, on sent de plus en plus qu'on est vraiment sur le fil du rasoir. On sent que les sports peuvent basculer dans un sens ou dans un autre parce que le dopage est de plus en plus prégnant, ça devient un secret de polichinelle et de plus en plus de performances interrogent. Vous prenez Pogacar au cyclisme qui réalise des performances qui sont meilleures dans l'ascension de certains cols, par exemple, de cols du Tour de France, qui sont meilleures que des cyclistes qui sont fait prendre pour dopage à l'époque Pantani ou Ulrich Armstrong. Vous prenez sur le marathon masculin, aujourd'hui, la question de passer sous les deux heures, on voit de plus en plus d'athlètes qui entraînent avec eux certains soupçons, on va dire. On peut multiplier comme ça les disciplines où il y a d'affreux doutes. On a eu du côté du tennis, si je dis pas de conneries, c'est Yannick Sinner qui avait été suspendu pour dopage, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Il a été contrôlé positif à deux reprises en mars 2024 à de faibles traces de clostébol, un stéroïde anabolisant. Une enquête a prouvé qu'il s'agissait d'une contamination accidentelle via une pommade utilisée par son kiné. Donc, que ce soit avéré ou pas, que ce soit grave ou pas, que ce soit volontaire ou pas, on sent bien que la question du dopage, on est loin d'en être débarrassé et que, au contraire, elle est de plus en plus présente parce que bah, le sport doit être de plus en plus spectaculaire, les épreuves doivent être toujours plus serrées, toujours plus spectaculaires, toujours plus épiques. Et donc, bah, on a l'impression que, petit à petit, la question du dopage est en train d'être mise sous le tapis. Et pile poil, à ce moment-là, on a nos fameux Enhanced Games qui déboulent avec cette histoire de, bah après tout, pourquoi pas faire sauter le verrou du dopage et dire, bah, en avant Simone, trois piqûres dans le cul et on est parti pour faire le 200 mètres nage libre en 3 secondes 2, hein, ce qui est quand même plus vite que les truites. Et Dieu sait que j'en ai bouffé de la truite, comme dirait Aurore Berger. Donc, ça peut aller très très vite s'il n'y a plus de limite. Ça peut aller très très vite. Donc, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que ce que je trouve intéressant, pour tirer le fil de la réflexion petit à petit, c'est que la question se pose de se dire, bah, est-ce qu'on n'irait pas, au fond, vers un dopage non seulement légal, et s'il est légal, c'est qu'il pourrait devenir, de manière officieuse, obligatoire. Si vous dites aux sportifs, maintenant, on fait péter les seuils de tolérance, vous pouvez plus ou moins vous doper, celui qui ne le fait pas, il est con. Parce qu'il va pas pouvoir être concurrentiel avec les autres, vis-à-vis des autres. Donc, ce dopage bientôt obligatoire, d'une certaine manière, il pourrait être même encouragé. Et là, on revient au début du XXe siècle. Et un bouquin que vous connaissez tous, et c'est en préparant cette vidéo que j'ai redécouvert un élément du livre que j'avais oublié et que je trouve très intéressant, qui apporte un drôle de clin d'œil à ce dont on parle avec ces Jeux Olympiques du dopage, hein, finalement. Le livre « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley, sorti en 1932, qui est une des références de la dystopie du XXe siècle avec 1984, ou encore « Sa Majesté des Mouches » de William Golding, ou encore, on pourrait citer, moi que j'aime bien, il y a Un bonheur insoutenable d'Ira Levin. Donc, Le meilleur des mondes, qui est une référence de la dystopie, qui imagine un monde techno-fasciste, on va dire techno-totalitaire, où le pendant de Big Brother existe dans Le meilleur des mondes, même si Le meilleur des mondes parle plus de la fabrication des êtres humains. Je vous passe un petit peu le contexte parce que je ne veux pas vous spoiler le plaisir de ce livre qui est un monument de la catégorie. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Merci à Nin94, effectivement, sur le chat, tout à fait. Donc, dans le meilleur des mondes, Aldous Huxley, d'ailleurs, pour la petite anecdote, le frère d'Aldous Huxley, Julian Huxley, est l'un des premiers penseurs de l'eugénisme aux États-Unis. Voilà. Enfin, dans le monde anglo-saxon. Voilà. Pour la petite anecdote, comme quoi, hein, dans les familles, on peut avoir des drôles de personnages. Ça m'a fait marrer, j'ai repensé à ça. Mais dans le meilleur des mondes, il y a un élément qui est très intéressant, qui est que le pouvoir en place, je vous le disais, qui est un pendant de Big Brother qu'on retrouve chez George Orwell, hein, dans 1984. Dans le meilleur des mondes, le gouvernement en place distribue une pilule, une sorte de médicament, si vous voulez, à tous les citoyens de cette société un peu, qui fait peur, hein, qui fait quand même un petit peu peur. Ce médicament s'appelle le Soma, S-O-M-A, et je savais que c'était, je me rappelais, après avoir lu le bouquin, que c'était la pilule du bonheur. Dans le livre, elle est évoquée souvent comme ça. C'est une pilule qui permet aux citoyens de ne pas se rendre compte du malheur qui les entoure. De ne pas se rendre compte que, globalement, leur vie, c'est de la merde. Un petit peu comme s'ils étaient obligés d'écouter tous les jours les albums des Kids United. Et Dieu sait que c'est pénible. Donc, pour lutter contre ça, le pouvoir en place dans le meilleur des mondes donne cette pilule. Et ce que j'avais complètement oublié, c'est que cette pilule est non seulement présentée dans le roman comme la pilule du bonheur, mais elle est aussi présentée comme la pilule de la performance. Dans la société, dans ce meilleur des mondes, non seulement on veut que les citoyens soient faussement heureux, qu'ils oublient leurs conditions, et surtout, on veut qu'ils restent productifs. Donc, qu'il y ait cette alliance entre le bonheur et la productivité, qui est d'ailleurs le cas dans les entreprises où ça se passe bien, globalement, c'est corrélé, même dans votre vie, si vous êtes de bonne humeur, bah vous êtes plus enclin à faire des choses. Eh bien, cette société du meilleur des mondes, elle donne, elle oblige les citoyens à prendre ce médicament qui vise à la fois le bonheur et la performance, la productivité, d'une certaine manière. Donc, l'objectif, c'est que chacun assume son rôle vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'État, sans faillir, sans faiblir, qu'il ait de quoi tenir pour faire ce qu'on attend de lui en ayant en plus l'illusion d'être heureux. Donc, ce que je trouve intéressant avec cette histoire de Enhanced Game, on revient au sujet des Jeux Olympiques du dopage, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent progressivement le glissement vers cette société où, aujourd'hui, les substances chimiques sont de moins en moins interdites. Regardez les yeux de Gabriel Attal pour vous en convaincre. On sent bien que la lutte contre le cannabis, par exemple, aujourd'hui, c'est même plus d'actualité. Et la lutte contre la cocaïne, c'est à se demander si c'est aussi d'actualité. Donc, on voit bien que petit à petit, les substances chimiques, à des fins récréatives, avec l'objectif que les citoyens puissent oublier le malheur de leurs conditions, on sent bien que la lutte, malheureusement, est menée de moins en moins férocement par nos pouvoirs publics. Et en plus, si on prend l'exemple de la cocaïne, allons au bout de la réflexion. Après, on reviendra sur l'aspect sportif. Hein. Mais si on fait le pendant entre notre société et la société du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Après tout, imaginez demain, le gouvernement nous dit, voilà, il y a une substance qui est proche de la cocaïne, mais c'est pas de la cocaïne, un petit peu comme le CBD et le cannabis. On a trouvé une substance, elle a les mêmes effets que la cocaïne. C'est-à-dire, vous avez plus d'énergie, vous êtes plus productif, vos pensées sont plus claires. Et cette substance-là, ben on va la rendre légale, parce que ce serait con de s'en priver. Vous pourriez travailler 10 heures par jour en étant efficace. J'exagère, mais imaginons cette société-là, où la substance chimique devient non pas un problème de santé, parce qu'après tout, si les substances qui causent des problèmes de santé inquiétaient vraiment nos dirigeants, on vendrait plus de cigarettes, on vendrait plus d'alcool. Donc là, on pourrait dire, mais on a une substance, c'est super, parce qu'en plus, vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler plus. Et vous allez voir, vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est du travail. C'est super. Donc, j'exagère. Et vraiment, je ne suis pas spécialiste en addiction. Je ne suis pas addictologue. Donc, je ne peux pas vous dire si non seulement ça existe et si c'est bien ou pas bien. Je fantasme, hein, on est d'accord. C'est de la fiction, ce que je vous dis. Mais dans notre société actuelle, je vous pose la question, est-ce que ça vous choquerait, ça? Est-ce que ça vous choquerait le recours à une substance chimique pour aider les gens à mieux supporter leur quotidien et accessoirement être plus productif. Parce qu'au fond, notre histoire de Enhanced Game, de Jeux Olympiques du dopage, c'est un peu ce que ça veut dire. C'est que, au fond, tout ça tient à un carcan moral. Le dopage, pourquoi c'est interdit? C'est interdit parce que on estime que le sport, c'est avant tout la bravoure, l'égalité dans la performance, le dépassement de soi dans des conditions qui sont les mêmes pour tout le monde. Mais si on va vers une société où on fait sauter tous les verrous moraux, on s'en branle du dopage. On s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est la performance. Show must go on. Donc, même chose avec les substances psychotropes ou récréatives ou tout ce que tu veux. Pourquoi c'est pas bien ? Pourquoi, après tout, c'est pas bien la cocaïne ? Parce qu'il y a un accord moral qui fait que c'est pas bien, sauf à l'Elysée. Non, je rigole. Enfin, je rigole. Vous regardez l'actualité. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un aspect moral à ça. Après, il y a évidemment des questions de santé publique. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais ce que je trouve intéressant avec ces Jeux Olympiques du dopage, c'est qu'ils viennent d'abord faire sauter un verrou moral. Ce qui nous interroge, c'est d'abord de dire bah, « En fait, le dopage, on s'en fout. Vous avez vu, c'est pareil. » Ils font de la natation, ils soulèvent des poids, ils courent, ils lancent, ils font des plaquages. C'est la même chose. Simplement, on a oublié cette valeur morale de dire ils ont tous le même niveau, ils ont tous les mêmes préparations, ils n'ont pas le droit à tricher. C'est la triche. Mais dans la société qui est la nôtre, cette société néolibérale occidentale, on va dire, tu te doutes bien que la triche, voilà, c'est plus vraiment le sujet numéro un. Donc, je trouve ça passionnant ce qui se passe avec cette histoire de Nanan's Game, c'est que on est vraiment dans la prolongation coûte que coûte du pain et des jeux. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour maintenir les citoyens sous domination du pouvoir en place, on peut songer à leur donner des substances, on peut songer à leur faire croire qu'ils sont heureux, et surtout, on peut rester dans l'adage classique du pain et des jeux. Tant qu'il y a de la bouffe et tant qu'il y a du divertissement, ça va le faire. Donc, pour revenir sur le côté sportif, rapidement sur cet argument-là, en tant qu'amateur de sport, et voilà, j'aime beaucoup regarder ça, se pose aussi la question d'un sport non dopé qui devient de moins en moins compétitif. Si on regarde l'évolution des records en athlétisme ou en natation, ou alors en cyclisme pour le coup non, mais en athlétisme, en natation notamment, on se rend compte qu'on est un peu sur un plateau au niveau des records. À part dans certaines disciplines, comme par exemple le saut à la perche avec du plantisme, mais sur le 100 mètres, le 200 mètres, depuis Usain Bolt, on a l'impression qu'il y a des records qui plafonnent. Et ça, c'est pas bon pour le spectateur. Pour le divertissement, le spectacle, je vous disais tout à l'heure, la compétitivité. Et comment on reste dans du pain et des jeux ? Comment on continue à dominer les citoyens en leur disant « Non, non, mais regarde le foot, t'as vu le rugby ? Oh, non, mais t'as vu comme ça va vite ? Oh là là, t'as vu comme il saute haut ? » Ça marche depuis la Rome antique, hein, donc c'est pas nous qui allons changer les choses. Comment on maintient du pain et des jeux dans un monde où le sport, cloisonné par les règles antidopage, est en train d'arriver à une sorte de plafond dans certaines disciplines ? Et bien là, on comprend, là encore, pourquoi les Nanan's Game arrivent au bon moment. Je trouve que ça arrive au rond-point de toutes ces réflexions-là. Et en plus, je vous disais tout à l'heure, Peter Thiel, donc le patron de Palantir, une des grosses têtes de la Silicon Valley aux États-Unis, proche du pouvoir américain, ouvertement transhumaniste. Ouvertement, Peter Thiel, vraiment, il n'y a aucun secret là-dessus. Bah, Peter Thiel, c'est l'un des principaux investisseurs des Nanan's Games. Donc là, on a un troisième angle de réflexion. Le premier que j'ai ouvert avec vous, c'est la question des substances, l'aspect moral, l'utilisation des substances, l'autorisation ou l'interdiction du dopage, en lien avec le meilleur des mondes. La deuxième chose, c'est du pain et des jeux. Comment vous continuez à dominer des gens en cherchant à les divertir si ce que vous proposez n'est plus vraiment divertissant? Et le troisième, c'est l'argument transhumaniste. L'histoire des Nanan's Games. Aujourd'hui, on nous dit, bon, on va faire courir des athlètes dopés de manière chimique. Là encore, je tire la réflexion, mais si demain on dit, bah, je sais pas, ces athlètes, je dis n'importe quoi, je vais vous ouvertement dire une bêtise, mais on va leur foutre un petit moteur de Ferrari dans le fion. Et on s'est rendu compte que sur le 200 mètres nage libre, ils vont 30% plus vite. C'est-à-dire, on quitte le terrain de la chimie, des substances dopantes, pour aller vers le dopage mécanique. On va faire des athlètes transhumanistes, des transathlètes. Alors pas ceux qu'on débite à... Voilà, non, mais... Attention, faut pas tout confondre. On va avoir recours à la technologie pour augmenter les athlètes. Et on reste dans la même catégorie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le recours à la technique pour les athlètes paralympiques, notamment, avec les fauteuils roulants ou les lames en carbone qu'on a vu sur certains athlètes à qui il manque des bouts de guibole. Mais on peut aller plus loin sur des athlètes valides. pourquoi le dopage s'arrêterait à la chimie ? Si on fait sauter les verrous, on peut aller jusqu'à la fusion homme-machine, c'est quand même le principe du transhumanisme, et d'aller vers des athlètes transhumanistes, des transathlètes qu'on aura, ou des transats Jacques Vabre, ce qui existe déjà dans le milieu du bateau. Mais ce que je trouve super intéressant, quand on voit des gens comme Peter Thiel qui soutiennent ouvertement le projet Enhanced Game, c'est qu'on voit tout de suite la dimension transhumaniste de ce genre de truc. Si on veut du spectacle, si on veut continuer d'utiliser le sport comme un outil de domination des masses, on peut se refuser aucun moyen. Donc je ne pense pas que ce soit un hasard de voir des transhumanistes notoires derrière cette histoire d'Enhanced Games, qui plus est des transhumanistes proches du pouvoir, aux États-Unis en l'occurrence. Donc je voulais vous dire tout ça, les amis, il y a beaucoup de réflexions, de projections, d'hypothèses. Mais pour finir là-dessus, je pense vraiment que nous ne sommes qu'au début d'une révolution dans le monde du sport, qui est que, de par la stabilisation des enjeux, on va dire, il va falloir chercher toujours plus de spectacles, il va falloir chercher toujours plus de compétitivité pour capter les gens, pour répondre à des enjeux de pognon, parce qu'il y a de plus en plus de pognon dans le sport, donc que ce soit les droits télé, les récompenses des sportifs, les marques qui payent des millions et des millions de dollars pour payer les sportifs, bah, tout ça, ça ne peut pas continuer à exister si les performances se maintiennent à un même niveau. En tout cas dans les sports individuels. Sport co, c'est peut-être encore une autre choucroute. Mais est-ce qu'on peut imaginer ce que nous vivons là comme un virage où de plus en plus de gens vont s'habituer à l'idée d'un sport avec dopage, de dire au fond, si c'est encore plus spectaculaire, qu'il y a encore plus de suspense et que tout le monde est content au niveau pognon, pourquoi on se l'interdirait ? Jusqu'à peut-être l'aboutissement d'athlètes augmentés par la machine. Vous avez des gens très riches à travers la planète qui fantasment sur l'homme augmenté par la machine. Si on peut faire monsieur, madame, tout le monde, on peut faire les sportifs. Donc, je voulais vous dire ça, les amis. Là encore, de la réflexion sur un sujet d'actu qui est celui des Enhanced Games, on en reparlera, à mon avis. Mais je trouve ça assez passionnant et je voulais vous partager ma petite vision sur cette potentielle révolution que nous avons sous les yeux.